La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas.
Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Jean, au chapitre 6, les versets 28 et 29. Ils lui dirent : Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ? Jésus leur répondit : L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Amen.
Chers amis, frères et sœurs, c'est un plaisir de vous voir de face, car habituellement, je vois que vos nuques et le dessus de vos crânes. C'est vrai que la technique là-haut nous fait voir les membres d'église que de dos. On n'a jamais l'avantage de vous voir de face. Alors je vous salue bien fraternellement en cette matinée de sabbat. Se promenant en montagne, un randonneur fait un faux pas et glisse dans le précipice. Heureusement, il réussit à s'accrocher à la branche d'un sapin qui poussait le long de la paroi. Balançant dangereusement de tous les côtés, angoissé, apeuré, il lève les yeux au ciel et crie « au secours, quelqu'un peut-il m'aider ?» Soudain, une voix douce, venue de partout et de nulle part, lui dit « Je suis Dieu, je suis là, mon enfant, aie courage. » Et puis d'ajouter « Me fais-tu confiance ?» Au bout de la branche, l'homme, « Oui, Seigneur. » Une confiance absolue et totale. Et sur la branche, « Oui, Seigneur. » Alors la voix de lui dire un petit peu plus loin « Alors je peux te sauver, mais à une condition, tu dois d'abord m'obéir et lâcher la branche. » L'homme au bout de la branche réfléchit quelques instants, lève les yeux au ciel et crie « Y a quelqu'un d'autre ?» C'est un petit peu la vie de croyant quand il met sa confiance en Dieu. Il a l'impression d'être accroché à une branche et c'est parfois difficile de lâcher prise. Alors, des histoires de personnes qui ont fait confiance à Dieu dans la Bible, il y en a beaucoup. Je vais vous en citer quatre rapidement, je ne vais pas entrer dans les détails. Le premier personnage qu'on rencontre dans la Bible et qui fait une confiance à Dieu, c'est Abraham. Il a 75 ans et Dieu va lui dire « Bon, tu changes de pays, tu vas partir de l'Irak actuel et puis tu vas aller en Palestine. » 75 ans. Abraham fait confiance à Dieu et il part. Il y a Moïse. Moïse, c'est pas le grand chef dont on a l'habitude d'entendre. Il est dans le désert depuis une quarantaine d'années. Il garde les moutons. Il voit un buisson brûler, sans se consumer. Il entend Dieu parler. Et il va laisser Dieu diriger sa vie pour sortir le peuple d'Israël du pays d'Égypte. C'est tous deux personnages âgés. Un peu plus jeune, il y a Rahab, la prostituée qui vit dans Jéricho et qui va sauver deux espions envoyés par Josué. Rien ne lui obligeait, mais elle aura la vie sauve, elle et sa famille, et elle sera considérée au niveau du judaïsme comme une justifiée par la foi. Et puis plus près de nous, la semaine dernière, Samuel nous en a parlé, il y a Paul de Tarse, le juif pur jus, fervent jusqu'à l'excès, prêt à tout, et qui va sur le chemin de Damas, il a peut-être entre 30 et 35 ans, recevoir l'appel de Dieu, et il deviendra l'apôtre des païens. Il a lâché prise, lui aussi, et accepté que Dieu conduise sa vie. Alors ces personnages bibliques ont laissé Dieu diriger leur vie, et tous à un moment particulier de leur histoire, pas nécessairement très jeunes, pas nécessairement très vieux. Et Dieu a également un plan une destinée pour chacun d'entre nous, quel que soit notre âge. Dieu veut nous utiliser pleinement pour que nos vies servent à faire connaître son amour et son plan rédempteur. Alors ma réflexion de ce matin va porter sur un personnage biblique dont le parcours personnel peut paraître atypique. C'est une personne qui vit dans une région qui est à peu près aussi grande que la Seine-et-Marne, un grand département, au moins en Île-de-France. Son pays est bordé d'un côté par la mer Morte, de l'autre par le désert arabique, au sud-est de la Judée. Et cette personne va rencontrer Dieu au travers d'une famille d'émigrés qui fuit la famine. Alors je ne vous demande pas de savoir si vous savez de qui je vais vous parler, mais je vais vous le dire. Mais les famines à l'époque étaient courantes. Et quand on lit la Bible, on s'aperçoit que d'Abraham à Isaac à Élisée, les temps de famine ont été des temps qui ont marqué le peuple de Dieu. Et quand il y a une famine dans un pays chaud, comme la Palestine, pas nécessairement évident de pouvoir faire face. Alors je voudrais voir avec vous ce matin les premiers passages du livre de Ruth, parce qu'il s'agit de Ruth dont je vais vous parler. L'histoire de Ruth commence par l'histoire d'une famille de réfugiés. Au temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem et de Juda partit avec sa femme, ses deux fils, pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens, c'est-à-dire habitants de Bethléem. Ils ne vivaient pas dans la périphérie, ils n'étaient pas comme nous, dans la grande périphérie de Paris. Non, ils étaient habitants de la ville. Alors la première question que je me pose quand je lis le texte, c'est que on s'aperçoit que les événements douloureux de notre vie, la famine en est une, peuvent nous pousser à faire des choix, à aller dans des orientations, dans des régions qui ne sont pas nécessairement des régions pratiques pour nous. Elles peuvent être même hostiles. Le choix de Moab est un choix assez particulier de la part d'Élimélec. Moab est un pays qui est plutôt hostile à Israël, hostile à la Judée. Et il y a souvent des guerres entre les deux pays. Mais le choix de Moab, c'est avant tout un choix météorologique. Il pleut à Moab, il ne pleut plus en Judée. Il y a du pain à Moab, il n'y en a presque plus en Judée. Puis le deuxième choix de Moab, c'est la proximité, c'est pas très loin. Moab, c'est à peu près la distance de Melun à Orléans. Une centaine de kilomètres. Alors, à pied, suivant le parcours ou le chemin que vous allez prendre, c'est 3 à 6 jours de marche, environ, sur un terrain suffisamment escarpé qui peut rendre les choses difficiles. Mais on s'aperçoit que notre ami Élimélec part avec sa famille et ses deux fils. Ses deux fils, ce n'est pas des ados. Si ça avait été des ados, on aurait dit avec ses deux enfants. Il part avec des jeunes hommes. Et il décide de s'installer. Le texte nous dit que il y va pour quelque temps. Il va faire un séjour dans le pays de Moab. Il n'a pas l'intention de s'y incruster. Simplement, il veut fuir une situation difficile. Et le texte nous dit un tout petit peu plus loin, verset 3, « Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. » Il fait un choix de ne pas mourir de faim. Il arrive à Moab, et là, combien de temps après, le texte ne le dit pas, mais il va mourir. Et Naomi va se retrouver chef de famille. On vit dans le monde du patriarcat, habituellement c'est l'homme qui dirige. Mais bon, la situation le met devant cet événement. Et un petit peu plus loin, quand on lit le texte, le deuxième point qui m'a quand même un petit peu interloqué, c'est qu'il nous a dit, les deux fils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. et ils habitèrent là environ 10 ans. Donc, c'est pas un court séjour, il reste 10 ans. Ce qui est intéressant quand on lit ce texte, c'est de voir que Naomi ne s'oppose pas au mariage de ses deux fils. Ce sont des mariages mixtes. Ce sont des Israélites pratiquants qui vont épouser deux femmes qui ne partagent pas leur foi. Mais elle ne dit rien. Il n'y a pas d'opposition. Elle doit être certaine que l'éducation que ses deux fils ont reçue feront face à cet événement particulier d'un mariage mixte. Et cette nouvelle famille va vivre 10 ans. Ouais, mais une nouvelle catastrophe, si vous suivez le texte. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux. Et Naomi reste avec ses deux belles-filles. Vous me direz qu'elle n'a pas de chance. Elle a quitté Israël pour ne pas mourir de faim, et elle perd sa famille dans un pays qui n'est pas le sien. Pourtant, quand on regarde le texte et quand on prend le soin de le lire complètement, cette famille qui est touchée par le drame est quand même une famille où l'amour est présent. On sait, quand on va lire les versets qui suivent, à partir du verset 6 et du verset 7, que Naomi va prendre la décision, au bout des 10 ans et peut-être un peu plus passé, de quitter Moab pour retourner en Judée. Il nous est dit qu'elle se lève, elle et ses deux belles-filles. Elle ne se lève pas toute seule. Ce qui prouve que ce qui se vivait dans la famille était interdépendant et que l'amour que Moab avait pour ses belles-filles était fort. Et les belles-filles ne sont pas obligées de la suivre. Elles la suivent quand même. Et elles décident de quitter le pays de Moab parce qu'ils ont entendu dire qu'à Bethléem, Dieu avait béni le peuple et que le pain était de nouveau présent. Donc, elle sort, accompagnée de ses deux belles-filles, pour retourner en Juda. Et jusque-là, on peut dire que c'est merveilleux. Mais le fait de se lever, le fait de vouloir partir à Juda, est quelque chose qui va compliquer la vie de Naomi et de ses belles-filles. Elle ne souhaite pas, Naomi, que ses belles-filles la suivent. Verset 8, elle leur dit « Allez que chacune retourne à la maison de sa mère. » Alors, malgré l'amour, elle veut rentrer et elle dit à ses belles-filles « Restez à Moab. » Alors, on peut se poser la question « Pourquoi une telle réaction de la part de Naomi ?» Est-ce qu'elle craint que ces deux jeunes femmes moabites arrivées en Juda, à Bethléem, ne soient pas considérées comme des personnes que l'on attend, qui font partie du peuple, qui ont quelque chose à prouver? Elle reconnaît pourtant qu'elles ont été bonnes, ces belles filles. Elle leur dit que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts, ses fils, et envers moi. Elle a de l'estime pour ses belles-filles, mais elle craint pour elles. Habituellement, les relations belle-fille-belle-mère, ça ne se passe pas toujours très bien, ça peut être un peu tendu. Mais dans le cas de cette histoire, ça ne l'est pas. Et ça prouve que les 10 années passées avec leur conjoint, avec leur belle-mère, ont fait de ces belles-filles des personnes qui sont touchées par le message de Dieu, touchés par une personne qui les a côtoyés. Mais on est quand même étonné, quand on lit les versets qui suivent, de voir l'attitude de Naomi par rapport à ses belles-filles. Elle fait tout, mais tout ce qui est en son pouvoir pour les décourager, à tel point qu'à un moment, on peut se demander si vraiment elle les aime. Elle ne souhaite pas les voir avec elle. Au verset 11, elle va leur dire... Retournez mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Je ne peux rien pour vous, est en train de leur dire. Restez où vous êtes. Ne gâchez pas les liens sociaux que vous avez dans ce pays. Ne quittez pas vos familles. ce que j'ai à vous proposer en Judée, ça va pas être, ça risque de ne pas être terrible. Elle va même jusqu'à dire, quand on lit le texte, verset 13, la deuxième partie du verset 13, elle va leur dire, « Car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Presque, elle est en train de leur dire. Si j'en suis arrivé là, vous êtes quelque part peut-être la cause de ce problème. Elle leur dit juste avant qu'elle les aime, elle demande la bénédiction de l'Éternel, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers moi. Et puis après, pour vraiment les décourager, parce que quand on est prêt à décourager des gens, on est prêt à dire n'importe quoi. Elle est en train de leur dire, si tout ce qui m'arrive là, c'est peut-être parce que vous êtes peut-être un peu les responsables. Un peu dur quand même. Et c'est à cet instant-là qu'il va y avoir un choix qui va être fait entre les deux belles-filles. L'une va accepter de partir, l'autre accepter de rester. Orpa retourne, si vous lisez la fin du verset 14, Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Et c'est là vraiment le cœur de ce que j'ai envie de vous dire ce matin. Faire confiance à Dieu et le laisser guider ma vie. C'est ce que va faire Ruth. Malgré l'opposition de la belle-maman, malgré l'avenir qui peut être difficile, elle accepte de quitter son pays, de quitter sa famille. Malgré les tragédies de sa vie, elle a été mariée 10 ans, malgré les influences négatives qu'elle avait reçues dans sa jeunesse par rapport au pays dans lequel elle vivait, elle va changer la trajectoire de sa vie. Dieu avait un plan pour sa vie. Les renoncements et la détermination de Ruth lui ont permis d'accomplir pleinement ce plan. Alors souvenons-nous que Dieu a aussi un plan pour chacun d'entre nous, afin que nos vies servent à faire connaître son amour et son plan d'amour et son plan de rédemption. Cependant, entrer dans la destinée de Dieu, répondre à son appel, ne se fait pas sans renoncement. Comment ressembler à Ruth en 2020 ? Comment saisir pleinement les leçons de sa vie et les appliquer dans ma propre vie ? Je reconnais qu'il est difficile de répondre à cette question en profondeur, en quelques mots, lors d'une prédication. Néanmoins, essayons d'en éclaircir les principaux points. Alors d'abord, il faut retourner à l'époque d'Élimélec et de Noémie. C'est l'époque des juges. Et si vous lisez le verset 25 du chapitre 21, il nous est dit, c'est le dernier chapitre du livre des juges, « Chacun faisait ce qui lui semblait bon en Israël. » Ce n'est pas une époque extraordinaire. Pourtant, Ruth est née et a grandi à Moab. Vous connaissez tous les origines de la nation moabite. C'est une relation incestueuse entre deux filles et leur père. Elles vont donner naissance à 2 enfants, Moab, et l'autre Ben-Ami, qu'on appellera les Moabites, et les Ammonites. Les gens de Moab adoraient, alors les gens de Moab, hein, les descendants, les deux filles de Lot, c'est les filles de Lot. Lot, c'est le neveu d'Abraham. C'est une grande histoire de famille quand même. Mais les gens de Moab adoraient un nom du dieu de Chemosh. Et leur adoration était en partie liée au culte des enfants. Pas au culte, au sacrifice des enfants. Vous avez ça dans le livre des rois. par rapport à une situation où un roi moabite va tuer son propre fils, ce qui va horrifier tout le monde. La prise de position de Ruth devient effective après l'opposition de Naomi. Quand Naomi va lui dire « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux, retourne comme ta belle-sœur », elle va avoir une réponse qui est une déclaration de foi, mais une déclaration d'une personne qu'on pourrait croire sortie d'un milieu religieux chrétien. Je vous lis cette déclaration, vous l'avez au niveau du chapitre 16. « Ruth répond, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. » Et là, elle a là des engagements forts. « Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. » Quelle déclaration ! Elle est moabite. On nous dit pas qu'elle est passée par les eaux du baptême. Pour autant, elle est capable de faire une déclaration qui nous laisse quand même quelque part sans voix. Elle est prête à tout sacrifier pour aller dans un autre pays, pour vivre avec des gens qu'elle ne connaît pas, pour servir un Dieu qu'elle a découvert au travers d'une famille, et pour dire qu'elle s'occuperait de sa belle-mère jusqu'au bout. Alors c'est une déclaration qui laisse parfois perplexe. Parce que parfois, Dieu nous appelle, mais on n'est pas toujours prêt à tout lâcher. Il y a des limites quand même. Son passé d'idolâtrie ne la rendait pas nécessairement prédisposée à répondre à ce type d'appel. Et c'est très vrai, et c'est vrai que très souvent, notre passé est souvent un fardeau difficile à porter, et qui peut devenir parfois un frein à notre engagement. Oui, mais c'est oublier que Dieu ne regarde pas à notre passé, ni à nos talents, ni à nos éventuelles prédispositions pour déterminer notre futur et notre destinée. Quand je lis ces versets à la lumière de l'arrière-plan de Ruth, sa déclaration, ce qu'on vient de lire, a encore une plus grande valeur. Elle a été transformée par l'exemple de son époux, de sa belle-mère, de son beau-frère peut-être. Cette femme se sépare de son passé, semble-t-il, assez facilement, de ses racines familiales, elle a encore de la famille à Moab, de toutes les influences qui ont pétri sa vie. Et elle déclare « Je ne veux plus de cette vie-là, je veux quelque chose de plus ». Quelque chose de mieux. Très souvent, on aspire à quelque chose de plus, à quelque chose de mieux dans nos vies. Et on est capable de pouvoir dire, Seigneur, je veux autre chose dans ma vie, je veux plus de toi, je veux te voir agir dans ma vie, je veux oublier mon passé, briser mes liens, et me porter vers la destinée que tu me proposes. Je veux répondre à l'appel que tu as pour moi. Et dans nos prières, très souvent, on parle de cette façon-là. Et Ruth, en faisant ce choix, va renoncer à plein de projets. Quand elle décide, d'une façon résolue, parce qu'elle est résolue, Ruth, de suivre Naomi à Bethléem. D'abord, elle renonce, pour une jeune femme, quel âge a-t-elle ? Trentaine d'années. Elle renonce à la possibilité de se marier. Parce que être émigré moabite en Judée, ça devait être difficile. Et se marier avec un Hébreu, c'était beaucoup plus compliqué. En renonçant au mariage, elle renonce à une sécurité matérielle. On vit à l'époque du patriarcat. Qui va s'occuper d'elle ? Hein ? Le côté financier des choses, parfois, nous fait réfléchir et reculer. Elle renonce à la possibilité d'avoir des enfants, parce que pas de mariage, pas d'enfants. GPA, PMA, adoption, ça n'existe pas à l'époque. elle accepte de porter le statut de veuve. Veuve. Vous vous souvenez dans le livre des Actes, la problématique entre les juifs hellénistes et les juifs de Jérusalem ? Il y en a qui se plaignent que les veuves des hellénistes, on ne s'occupe pas d'eux. Et on instituera le diaconat. Donc veuve à l'époque de Ruth, ça ne devait pas être quelque chose de très facile. Et puis, elle va accepter de changer de nationalité. Elle va être émigrée. Elle n'a plus rien. Et elle accepte à la fin de s'occuper de sa belle-mère, quoi qu'il arrive. Elle fait des paris, elle prend des engagements sérieux, définitifs. Lorsque Ruth fait cette déclaration d'allégeance à Dieu, elle fait la rupture de son passé pour faire une alliance avec Dieu. Alors, c'est facile du haut de la chair de dire « Yaka ». Reconnaissons qu'il n'est pas simple d'abandonner les liens du passé pour son bien-être personnel. Pour Ruth, cette décision, elle est sans calcul, si ce n'est l'espoir d'une vie meilleure avec Dieu. Et à ce moment-là, Boaz est encore bien loin. Son choix n'est pas dicté par son entourage, tout du moins sa belle-mère va la décourager jusqu'au bout. Ce renoncement au passé et à l'incertitude du futur, elle l'assume. Mais elle a confiance. Orpa, sa belle-sœur, décide de rester à Moab, trouvant probablement le prix du choix trop élevé. Aujourd'hui encore, dans notre société, dans nos communautés, des centaines de personnes sont comme Ruth. Elles ont le désir d'accomplir la destinée que Dieu a pour elles. Mais lorsque vient le temps de renoncer à certaines choses, d'être déterminées et résolues dans de nouveaux choix, dans de nouvelles décisions, ces personnes se comportent trop souvent comme Orpa. Lorsque Dieu nous demande de quitter un emploi parce que non cohérent avec nos principes chrétiens, lorsqu'il nous demande de mettre fin à une relation amoureuse un peu bancale, lorsqu'il nous demande de pardonner celui ou celle qui nous a blessés, ou de marcher par la foi, ou de sacrifier ce qui nous est le plus cher, bien souvent, nous demeurons à Moab, au lieu de marcher vers Bethléem. La force de Ruth, c'est qu'elle a renoncé à toutes ces choses, sachant que son futur était ailleurs. Trop souvent, nous regardons la situation présente, à savoir le prix de l'obéissance à Dieu, au travers d'une loupe qui engrossit tout les aspects, toute l'importance, alors que nous devrions regarder au travers d'un télescope le futur que Dieu nous propose. L'apôtre Paul a mis lui-même ce principe en action, il a écrit « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la victoire céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Voulons-nous remporter ce prix, cette victoire, nous porter en avant? Le renoncement du présent n'est en rien comparable au plan que Dieu a pour chacun d'entre nous. Le futur de Ruth, quand on lit le texte, la suite du texte, est bien plus glorieux que son passé. Les renoncements de Ruth lui ont ouvert la porte de la bénédiction. Ce qui semble être impossible à Ruth, arriva. C'est un peu ce qu'écrivait, ou ce que titrait Gallimard en 1963. Il disait, il y avait un livre qui sortait et qui disait « La réalité a dépassé la fiction ». Boaz, un riche propriétaire, proche parent de Naomi, rachète tout ce qui appartient à Élimélec et à ses fils, et prend Ruth pour femme. Mais ça, on le sait quand on lit la suite du texte. Le rachat de Ruth par Boaz lui permet d'être intégré dans le peuple élu et même dans la lignée des ancêtres de Jésus-Christ. Par son renoncement, par le fait d'avoir lâché prise, Ruth a été rachetée, a été aimée. Elle a comblé sa belle-mère et elle donne naissance à l'arrière-grand-père de David. Rappelons-nous que le renoncement, c'est un catalyseur pour l'accomplissement de notre destinée et de nos rêves les plus secrets. Qu'est-ce qu'un catalyseur ? Alors, rien à voir avec les pots catalytiques qui peuvent équiper vos voitures. Non, non. C'est un terme utilisé en chimie. Le catalyseur est la substance qui sert à déclencher une réaction chimique. Pour faire simple, le renoncement accélère notre changement d'orientation. Pas de renoncement, pas de changement d'orientation. Sans catalyseur, pas de réaction chimique et tous les autres éléments de la réaction restent inactifs. Alors que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes à l'image de Ruth, des hommes et des femmes déterminés qui auront la force de renoncer à la facilité, sachant que l'obéissance à Dieu ouvre la porte de la bénédiction et permet d'entrer pleinement dans la destinée et à l'appel que Dieu a pour chacun d'entre nous. Quand nous mettons en pratique ce principe, attendons-nous à voir le miraculeux de Dieu intégrer nos vies. C'est ma prière pour chacun d'entre nous. Amen.